franceinter.fr.
Et encore une histoire de cerveau à la une de la science, puisque notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière lorsque nous sommes seuls ou entourés. C'est une expérience que nous avons tous fait, le stress paralysant devant un jury qui conduit à l'échec, ou au contraire, la présence d'un être cher qui nous transcende. Et bien cette branche des neurosciences appelée la théorie du cerveau social explique beaucoup de comportements, et aujourd'hui elle trouve même une explication nouvelle grâce à la neuroimagerie et grâce à vos travaux. Driss Boussaoud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut des neurosciences des systèmes à Marseille. Là, vous êtes en direct avec nous depuis Casablanca et vous signez ces travaux réalisés sur des macaques avec votre collègue Pascal Huguet. Comment est-ce que vous avez testé cette hypothèse du cerveau social sur des singes? Comment est-ce que vous avez procédé?
Alors, ce que nous avons fait avec Pascal Huguet, avec en particulier Marie Desmoliens, qui a fait son doctorat sur ce sujet, c'est de proposer à des macaques de réaliser une tâche simple dans laquelle ils associent des images à des cibles, et ils peuvent faire cette tâche soit en étant seuls, soit en étant accompagnés d'un congénère, qui est familier. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est chercher les bases neuronales d'un phénomène qui est très connu depuis plus d'un siècle en psychologie sociale, qui est celui de la facilitation sociale, dont vous avez parlé en présentant le sujet. Et alors, ce que nous avons trouvé, c'est que les neurones qui prennent en charge la réalisation d'une tâche simple qui n'a rien de social, eh bien, ces neurones peuvent s'activer de manière différente selon que le singe réalise la tâche seul ou en présence du congénère. Alors, on a appelé ces neurones des neurones sociaux parce qu'ils prennent en compte, tout en codant une tâche non sociale, ils prennent en compte le contexte de la présence ou de l'absence des congénères.
Alors, quelle était la tâche précisément que devait accomplir ce singe?
Alors, c'est une tâche simple. Sur un écran tactile, on lui présente une image et des carrés lumineux, et il a compris avec l'apprentissage que sa tâche, c'était de trouver avec quel carré l'image particulière qui est présentée est associée. Donc, il fait plusieurs essais et on mesure le nombre d'essais qu'il lui faut pour apprendre à trouver les bonnes réponses. Et alors, oui.
Est-ce qu'il réussit mieux quand il est accompagné ou quand il est seul, alors?
Alors, dans le cas présent, il réussit mieux quand il est accompagné de son congénère.
Est-ce que vous avez une explication particulière? C'est un ami ou ils se connaissent bien?
C'est un congénère familier, et ce congénère familier, et donc sa présence apporte une sorte de manifeste confortant, et donc le singe qui exécute la tâche va la prendre mieux, il va la réussir plus rapidement. Et alors, en parallèle, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment les neurones s'active pendant l'exécution de la tâche en fonction de la présence ou de l'absence du congénère.
Pourquoi est-ce que c'était important de vérifier quelle zone était active dans cette théorie du cerveau social?
Alors, la théorie du cerveau social qui a émergé ces dernières années, essentiellement des travaux de la neuroimagerie, nous dit que dans le cerveau, il existe un ensemble de structures qui sont spécialisées dans le traitement de l'information sociale. Et donc, nous avons montré que des neurones qui sont enregistrés dans des régions du cerveau qui ne sont pas particulièrement celles qui font partie du cerveau social, eh bien, ces neurones, tout en codant l'exécution d'une tâche simple, visuomotrice, et ils prennent en compte la présence ou l'absence du congénère. Donc, la présence d'autrui module notre activité, même si cette activité n'est pas sociale. Et ce que ce travail suggère en particulier, c'est que, étant donné que toutes nos activités sont modulées par la présence d'autrui, ce travail suggère qu'en fait, il faut revoir la théorie du cerveau social et que probablement toutes les régions de notre cerveau sont susceptibles d'être sous la modulation du contexte social.
Sébastien Boller, une réaction? Il faut revoir cette théorie du cerveau social, alors, remise en cause avec cette expérience?
Oui, moi ça me semble très nouveau, effectivement. Le fait que des neurones spécialisés dans des tâches fonctionnelles, individuelles, change d'activité en présence d'un environnement social. On le sait tous, par exemple, le simple fait de parler à la radio en votre présence, je ne dirais pas les choses de la même façon que si j'ai dit tout seul dans ma chambre. Enfin, c'est évident. Ouais. Mais le fait de voir que le cerveau bascule d'un fonctionnement vers un autre, ça pose des vraies questions.
Ouais. Il y a une histoire d'émotion, là, encore, là-dessus. Hein.
Certainement. Et sans doute aussi de cognition, hein, tout simplement. Mm. De façon d'envisager les mécanismes cognitifs de base, tout simplement.
Est-ce qu'il serait envisageable, Driss Boussaoud, de refaire l'expérience que vous avez menée, mais avec des hommes ?
Alors, avec les humains, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas accès à des enregistrements de neurones unitaires. Parce que là, nous sommes en train de regarder de l'activité de neurones à l'échelle individuelle. Les méthodes qu'on utilise chez les humains sont généralement l'imagerie ou le G ou la MEG, qui sont des méthodes un peu plus globales. Mais c'est possible parce que dans certaines situations, cliniques en particulier, on a accès à des enregistrements unitaires et je pense que si ces conditions sont réunies, ce serait très, très intéressant de voir dans quelle mesure on peut extrapoler ces données au cerveau humain.
Donc il va falloir poursuivre vos travaux, visiblement, Driss Boussaoud.
Tout à fait, le travail ne fait que commencer, oui.
Avec cette publication qui vient de paraître avec vos confrères donc du CNRS. Merci beaucoup Driss Boussaoud, vous étiez donc en ligne depuis Casablanca. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des nouvelles du loup en France, malgré une hausse des abattages ces dernières années. La population de loups augmente dans notre pays. 360 individus ont été comptés cette année contre 292 en 2016. Après deux années de stagnation, la croissance de la population repart donc à la hausse. Les meutes colonisent également de nouveaux territoires comme l'Isère, la Savoie, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Selon Yvan Lemao de l'Université de Strasbourg, cette hausse peut s'expliquer par le contexte naturel et climatique particulièrement favorable cette année et une situation qui ne devrait pas suffire à apaiser les éleveurs ovins. Ne faites pas trop confiance à votre montre connectée pour le suivi de vos activités sportives. Si elles sont bien capables de mesurer le rythme cardiaque, il n'en va pas de même pour les calories brûlées. Quelles que soient les marques, les résultats sont similaires. Une équipe de Stanford a comparé donc les données relevées par les bracelets avec un équipement médical complet et les résultats montrent que la mesure du rythme cardiaque est correcte et correspond à la réalité physiologique. En revanche, l'estimation des calories brûlées est souvent erronée car elle dépend de chaque personne et de son métabolisme particulier. De multiples biais existent dans ces mesures en raison d'algorithmes d'estimation jugés particulièrement mauvais. Et puis pour terminer, le code secret de la force de Popeye enfin révélé puisque le génome complet de l'épinard vient d'être séquencé et publié. Les auteurs ont décodé l'ADN de plus de 120 types sauvages et cultivés d'épinards, des connaissances qui permettront une meilleure connaissance de la plante, mais surtout la production de plants OGM résistants aux maladies, avec de meilleurs rendements et qualités. Environ 20 millions de tonnes d'épinards sont produits chaque année dans le monde.